française.
Latina.
La franco-latina.
À marge de la sortie sur les écrans français du film Navidad du réalisateur chilien Sébastien Lelio, Carolina Labrador a rencontré Benjamín Echazarreta, le chef opérateur du film. D'origine chilienne, Echazarreta réside actuellement en France, mais pratique un aller-retour cinématographique permanent entre les deux pays. Il en a parlé à Carolina Labrador juste après avoir évoqué la toile de fond politique du film de Sébastien Lelio.
Alors, le fond politique du film, Sébastien en parle souvent, c'est le fait que c'est des personnages qui ne sont pas liés directement à la dictature, en fait. C'est des personnages qui sont nés post-dictature. Pour Sébastien, c'était important de reprendre, en fait, ces personnages-là qui ont grandi avec des parents qui, effectivement, ont vécu sous la dictature et ont, quelque part, créé un contexte familial un peu oppressant, ou pas forcément oppressant, mais fragile, un peu déséquilibré. C'est ce qui se passe souvent dans beaucoup de familles au Chili, effectivement. On sent quelque part un sentiment de famille qui est très très fort, mais on sent qu'il y a eu quand même à un certain moment une violence, plus chez un que chez d'autres, hein, c'est évident. Ça répercute chez ces enfants-là, qui finalement se retrouvent dans une espèce d'instabilité familiale, quoi. Et ils s'en échappent. Ces trois personnages s'en échappent. Alors, est-ce que c'est vraiment dû au fait de la dictature ou pas? Ça, on le dit pas, mais ça peut être sous-entendu. Il y a une certaine présence du contexte historique chilien, en fait. C'est quelque chose qui est très en arrière-fond, mais il est là, on le sent quand même qu'il y a eu quelque chose, et qui, en fait, tout ce fond-là, en fait, est ramené aux parents. C'est-à-dire que c'est les parents, la génération antérieure, et il y a une espèce d'incompréhension, en fait, de ces deux générations. Mm. Et c'est très marqué, en fait. J'ai beaucoup moins de sentiments ici, c'est-à-dire que les différences sont beaucoup plus marquées, les différences d'âge là-bas, les différences de génération, plutôt. C'est-à-dire qu'il y a les adultes, il y a les jeunes, il y a les très jeunes, et ça se mélange beaucoup moins qu'ici, ouais. En fait.
Ici, les
jeunes arrivent à vivre facilement avec les adultes, et au Chili, alors c'est aussi dû à la culture sûrement, mais peut-être aussi c'est dû aussi au fait de la dictature. J'ai peut-être ce sentiment, c'est-à-dire que c'est des gens qui effectivement, les générations ne se comprennent plus vraiment, elles n'ont pas vécu les mêmes choses du tout en fait. Il y a eu tellement de changements qu'elles vivent vraiment plus, elles n'ont pas vécu du tout les mêmes jeunesses et tout, sur une aussi courte durée. Et donc c'est des générations qui ne se croisent plus tellement au Chili, enfin depuis les années 80, hein, je dirais. Parce qu'effectivement, les années 80 au Chili aussi ont été très marquées, et sous la dictature, il y a eu une effervescence culturelle très forte aussi, mais très particulière, qui était très cachée et... Moi, je sais pas, j'ai pas vécu ça, puisque moi, j'habitais ici à ce moment-là, mais voilà, j'en ai entendu beaucoup parler, quoi. Moi, Sébastien, je le connais depuis très longtemps. On a fait... on était à l'école de cinéma ensemble, à Santiago. On a fait plusieurs choses ensemble avec Sébastien. On a fait des courts-métrages à l'école et tout, ensemble. Donc, moi, je suis venu ici ensuite. Je suis revenu, et lui, il a fait son premier long en 3 jours, très rapidement. Donc, on n'a jamais considéré la possibilité que moi, j'aille faire ce film-là. C'est un film qu'il a fait vraiment très spontanément, comme ça, à la va-vite. Mais il y avait toujours cette envie, de toute manière, de se retrouver et de travailler à nouveau ensemble. Sébastien, avec cette expérience qu'il avait eue auparavant et qui avait très bien marché, son film La Sagrada Familia, on s'est retrouvé un peu dans un espèce de paradigme quand même, parce que cette fois, il y avait une production qui était un peu plus conséquente. Il y avait... on était, quoi, une quarantaine de personnes sur le plateau, avec 5 semaines de tournage. Le film auparavant, il l'avait tourné en 3 jours. Donc tout ça faisait que il y avait une espèce de lourdeur qui s'installait sur le plateau qui lui n'avait pas l'habitude. Parce que quelque part, il voulait quand même retrouver un peu l'énergie et cette spontanéité qu'il avait trouvée à ce moment-là de tourner la Sagrada Familia, mais dans un contexte dans un contexte où effectivement il y avait plus de gens, plus de temps. Tout le défi était justement d'essayer de trouver une méthode de travail qui permette une certaine fraîcheur sur le plateau. On faisait beaucoup de préparation et ensuite on s'enfermait. C'est-à-dire qu'il y avait plus que 4-5 personnes de la technique en fait. Et on tournait les scènes comme ça avec les comédiens, on s'enfermait quoi dans la maison. Une fois que toute cette mise en place technique et du décor et tout était au point, l'idée c'était de pouvoir tourner en 360 degrés. Donc c'est jamais très évident de pouvoir tourner en 360 degrés parce que il y a souvent des pieds de projecteur où il y a. Enfin, donc l'idée c'était de pouvoir tout accrocher et faire des systèmes d'éclairage où effectivement on pouvait tourner partout quoi. Se promener partout dans la maison et sans qu'il y ait d'intervention et qu'on puisse faire les scènes en continu, quoi. Ce qui permettait dans ce cas-là à Sébastien de retrouver un peu l'énergie qu'il avait avant, son travail qui était sur la base de l'improvisation, c'est-à-dire donner des éléments aux comédiens, donner des éléments physiques aussi de jeu, comme un disque par exemple ou des ustensiles qui leur permettent de jouer et un espace de jeu. Et ensuite, laisser libre cours à leur dialogue. Et Sébastien, principalement, ce qu'il faisait, c'était de guider un peu la conversation, de fil en aiguille, l'histoire commence à se raconter un peu, quoi. C'est des réalisateurs qui ont vu beaucoup de films, mais qui n'ont pas une expérience de terrain énorme, en fait.
Au Chili,
Au Chili, oui. Donc, ils ont une culture cinéphile qui est Sébastien, il a vu beaucoup de films, il a une culture énorme, mais il n'a pas la méthode traditionnelle qu'on retrouve ici en fait.
ça veut dire le travail, même si tu fais pas la réalisation, mais le travail derrière la caméra ou
De mise en scène, oui.
de mise en scène.
Quelque part, c'est des gens qui sont toujours dans une recherche en fait. Il y a quand même une recherche nouvelle de mise en scène parce que dans les écoles de cinéma, on nous apprend plus à tâtonner et à expérimenter des choses, plus que j'ai fait l'université d'été à la FEMIS et je me suis rendu compte qu'effectivement, dans cette école, ils tournent beaucoup et ils sont très encadrés en fait. Il y a des professeurs guides qui leur montrent comment faire. Et donc, on se retrouve tout de suite dans des schémas qui marchent très très bien, hein. C'est très efficace, mais c'est des schémas récurrents ici. C'est-à-dire que moi, quand je me retrouve sur un plateau en France, c'est des méthodes de travail que je reconnais très facilement. Quand je pars au Chili, je me retrouve sur des plateaux où effectivement, on est toujours dans le tâtonnement, on est toujours dans l'expérimentation quelque part, dans des nouvelles recherches de mise en scène. Les deux expériences, parce que j'ai fait deux films là-bas, chaque expérience, les deux films que j'ai faits sont très singulières, quoi. C'est des expériences vraiment particulières. Donc Sébastien, c'était justement essayer d'être plus dans l'improvisation et capter des moments, être vraiment dans une énergie très attentive et être très alerte, en fait. Vraiment sentir le moment et être très proche des acteurs, enfin. Surtout qu'il y a un travail dans le film qui est. Tout le film est fait à l'épaule, à caméra à l'épaule. Et donc, il faut vraiment trouver une espèce de symbiose avec les comédiens et sentir quand se rapprocher, sentir quand il faut pas noter. Et il faut trouver un rythme. Et c'était pas évident, hein. C'est-à-dire que au début, j'ai eu beaucoup de mal. Sébastien, c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, on a commencé à. Sébastien aussi, il a cadré pas mal. Parce que. Lui, il a répété énormément avec ses comédiens, donc il savait plus où aller, à quel moment, il arrivait à anticiper. Ça vient, je pense, du fait de manque de moyens, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement t'as pas beaucoup de moyens, tu cherches une manière singulière pour raconter ton histoire. Tu sais que tu vas pas pouvoir déployer plein de moyens pour avoir ton plan que tu as imaginé et tout. Là, il faut vraiment trouver une forme qui permettent une singularité au film. Le cas de Navila, c'est que c'est un film singulier, vraiment. C'est-à-dire que c'est un espace avec trois comédiens et tout le film se raconte là-dedans. Et il se tient comme ça. Et c'est ça qui est assez fort dans le film, c'est que tout le film se passe effectivement un après-midi, une soirée et un matin, ce qui n'était pas évident aussi à faire parce qu'on tournait quand même ce court instant de la vie de ces trois personnages étalé sur 5 semaines. Et il fallait rendre compte du temps qui passe, puisque le temps qui passe dans ce film est très important, hein, devient un personnage quand même. La nuit qui arrive, le soir qui tombe, le matin qui se lève, toutes ces choses sont des importants narratifs.
Et tu trouves que dans cet autre film chilien que tu as vu, tu trouves aussi cette expérimentation, cette recherche?
Oui, il y a, chez les jeunes, oui, il y a. Il y a Mathias Vissé, qui a fait un film qui s'appelle En la cama. Tout se passe dans deux personnages, dans une seule pièce d'hôtel. Il y a aussi le film qui était la semaine de la critique, là, à Cannes cette année, Huacho. C'est aussi ça. Il y a un autre film aussi qui marche un peu comme ça, avec ces structures, personnages parallèles, plusieurs histoires qui se croisent. C'est Ilusiones Opticas de Cristian Jiménez. C'est des choses qui sont faites ici. Hein, en France, c'est des films qui se faisaient... dans les années 60, en France, il y a eu beaucoup de films qui se sont faits comme ça, d'ailleurs avec différents réalisateurs. En fait, c'est surtout dans l'idée de trouver des structures narratives, et toujours dans cette recherche, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas... On tombe pas... Il y a quand même, au Chili, il y a une catégorie de films, de comédies d'ailleurs, qui se font. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a quelques films comme ça qui sont visés au grand public... et qui sont assez classiques dans leur forme, quoi.
Comme La Nana, par exemple.
Non, La Nana, je pense que c'est... je trouve que c'est un film intéressant, quelque part, dans sa forme aussi, qui est un peu plus vulgaire, mais qui, justement, a une fonction très simple, en fait. C'est vraiment une espèce de caméra amateur qui se trouve là, dans cet endroit précis, à ce moment-là, et qui raconte l'histoire de cet employé de maison. Après, je pense que le film en lui-même, il a sa force dans le scénario et chez cette comédienne, en fait, qui vraiment fait la consistance de ce film, hein, qui est à ce niveau-là très réussi. Hein. Il y a un fond, le fond audiovisuel, qui est un système d'État qui aide tous ces films là dont je parle, et un système qui marche de mieux en mieux et qui prend forme et qui est à la base de toutes ces personnes aussi qui font du cinéma aujourd'hui, et aussi parce que aujourd'hui effectivement les méthodes de travail permettent de faire du cinéma un coût un peu moindre quand même. On arrive à faire des films pas trop chers, au Chili notamment, parce que la main-d'œuvre est pas très chère. Au niveau de la technique, par exemple, c'est des gens qui sont très expérimentés, parce qu'ils font quand même... Ils travaillent énormément en publicité et tout, et donc ils ont beaucoup d'expérience, mais on retrouve beaucoup de gens qui travaillent dans la publicité, qui aiment beaucoup le cinéma et qui sont prêts à travailler sur des films pour pas grand-chose. Ils sont prêts à pas gagner beaucoup d'argent sur des films. Au Chili, la plupart des réalisateurs... ou comme Sébastien Lelio, ils font des cours à la fac, ou ils font de la pub à côté. Ou...
Et pourquoi tu aimes bien aller là-bas à travailler, s'il y a cette condition un peu précaire
Alors en fait, j'aime beaucoup aller travailler là-bas au Chili, parce que d'une part, c'est des gens avec qui j'ai grandi quand même, les gens avec qui je travaille là-bas, c'est des gens que je connais, c'est des amis. Et d'autre part, je sens quelque part que cette émergence de cinéma au Chili est importante, et je veux en faire partie aussi quelque part. Moi, je trouve ça très 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 excitant, quoi, d'être là-dedans et de sentir qu'on est en train de faire quelque chose, parce qu'il y a un dialogue, il y a une vraie recherche, il y a une envie de trouver des choses qui sont délicates, et surtout dans Navidad, c'est un film très délicat, quoi. C'est un film qui travaille un peu sur la mélancolie, sur des sensations comme ça du passé, toute l'idée et toute la recherche du film, c'est comment réussir à trouver ces moments-là. Et c'est tout le défi, en fait, du tournage, de créer une atmosphère, de créer une ambiance qui permette à un moment que des choses affleurent et que... et qu'on puisse les filmer et qu'on puisse être présent là, dans ces moments-là, quoi.